15h06, de retour dans le studio du Québec maintenant. J'espère que vous avez déjà amorcé votre retour à la maison. Vous avez déjà le manteau sur le dos. Vous marchez dans les rues de la ville vers le train de banlieue. Non, on m'informe encore une fois que le Bixi, ça marche plus. C'est fini. La trottinette aussi. Peut-être que vous êtes en vélo, sinon en auto. Mais merci de nous écouter. Bonjour Catherine. Bonjour. Philippe.
Salut Patrick.
Bonjour Raphaël, quelque part dans l'univers.
Bonjour.
Bon, toujours en train de donner des cours aux étudiants de l'Outaouais?
Oui, mais ça achève. Écoute, la session achève. Elle est un petit peu plus courte que la saison de radio. Donc, les périples en Outaouais, il reste une couple de semaines, puis là, vous allez être pogné après ça à temps plein avec moi en studio. Ça sera pas facile.
Mon Dieu, tu me ramènes très, très loin dans le passé. C'est vrai, les sessions, les cours, ça finit fin novembre, puis les examens, il me semble, là, commencent début décembre, c'est ça?
C'est exact. Autrement dit, quand on est encore étudiant, on peut pas complètement se plaindre, parce que à moins d'avoir un boulot étudiant, on est en congé longtemps pendant les fêtes.
Es-tu un prof sévère, Raphaël Jacob?
Tu sais qu'on est en direct. Qu'est-ce qui arrive chez un étudiant qui m'entend présentement, qui n'a pas encore fini sa session? Donc, je te répondrai au retour des fêtes.
OK, parfait, Raphaël. De quoi tu nous parles tantôt?
Bien, écoute, deux sujets inévitables, évidemment. Le premier, c'est l'impeachment. Nouveau témoignage aujourd'hui, assez difficile, encore une fois, pour le président Trump. Une témoin en particulier qui est venue vraiment retenir l'attention aujourd'hui, je t'en parle. Et retour surtout sur le débat d'hier, débat démocrate. Un en particulier qui a retenu l'attention, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais pour une raison à laquelle on est habitué, c'est-à-dire sa propension à faire des gaffes. On parle de Joe Biden.
Parfait, on te retrouve vers la fin de l'heure, Raphaël. Monsieur Quentin?
Les Alouettes ont annoncé aujourd'hui la mort de George Springgate, 81 ans. Patrick, George Springgate, c'est un monument à Montréal dans les années 70. Il était partout. Il a été député libéral, grand défenseur des Québécois anglophones, mais également joueur des Alouettes. Il était à la fois joueur des Alouettes, le batteur de précision des Alouettes et député à l'Assemblée nationale. C'est absolument extraordinaire.
Ça se peut quasiment pas.
Ouais, et il a fait une carrière. Il a été policier, commentateur sportif. Il a écrit des chroniques dans la presse. Il a été à la CBC. Il a été impliqué dans un paquet de mouvements pour aider les jeunes. Une carrière absolument fulgurante. Et j'ai trouvé, je veux juste te faire écouter un court extrait. Il parlait un excellent français. Et juste te faire écouter un court extrait de sa conception de la vie. C'est sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. On écoute ça.
Comme il y a deux sortes de gens dans la vie. Soit vous regardez le défilé ou vous êtes dans le défilé. Ça, en réalité, c'est ça. Moi, j'ai toujours voulu être dans le défilé puis en avant. Mais pas trop en avant.
Je trouve que ça le définit tellement bien. Il n'était pas trop en avant, mais il n'était pas loin de la tête.
Député et batteur de précision en même temps.
Et surtout, il avait son franc-parler. Il n'y a pas un sujet sur lequel George Springgate ne s'est pas exprimé. Et c'était un personnage extrêmement coloré, un gars très, très, très brillant. Et franchement, là, quand on parle un peu des gens qui ont marqué l'histoire de Montréal à leur façon, qui ont apporté une contribution à la communauté, c'était controversé, qu'on l'aime pas, je pense que tout le monde le respectait. Alors, M. Springgate, à l'âge de 81 ans, qui nous a quittés aujourd'hui.
Très intéressant. Merci, Philippe. On te retrouve tantôt. Madame Beauchamp, un peu de Céline.
Encore?
Mon Céline? Dieu, les gens en redemandent.
Non, mais hier, il y avait une pause au Centre Bell parce que le Canadien jouait. Donc, Céline revient ce soir sur scène. Et moi, je me suis...
C'est pour ça qu'on a perdu. La glace devait être en mauvais état.
Pas certaine.
Mais Céline aurait peut-être offert un meilleur show que ce qu'on a
imagine
eu.
Imagine si Céline était venue chanter l'hymne national.
Ouais, ça aurait été extraordinaire.
Ça aurait été assez incroyable. Ouais, ouais. Mais non. Alors, je me suis entretenue avec Scott Price, qui est son directeur musical. On a parlé beaucoup de comment ça fonctionnait, justement, débuter un spectacle qui va faire le tour du monde. C'est assez intéressant, tout ce qu'il m'a raconté. Comment on choisit les chansons qui s'en vont dans le spectacle?
Pas inintéressant. Parfait, merci. Dans quelques minutes, on va te retrouver, Catherine Beauchamp, et tu vas nous parler. Scott Price, il a été sur des plateaux de télé, lui, beaucoup, non?
Beaucoup.
Oui,
il a travaillé aussi avec des bons Charles Aznavour, Petula Clark. Non, mais c'est un bon vieux routier, là.
Parfait. Merci. Il est 16h11. On va te retrouver tantôt. Là-dessus, de cet incroyable artiste Céline Dion, on va se poser une question qui est pas mal plus extraterrestre. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? C'est une question qui a mené à 1000 films de science-fiction, mais cette semaine, un spécialiste des insectes qui est rattaché à l'Université de l'Ohio cause tout un émoi dans le monde scientifique. Il affirme, c'est son opinion, que des insectes ont vécu sur la planète rouge. C'est une affirmation qui ne convainc pas grand monde chez les spécialistes du cosmos. On en parle avec Frédéric Pelletier. Qui est Frédéric Pelletier? Formé comme ingénieur en aérospatial, il a travaillé à la NASA, disons qu'il s'y connaît dans le domaine des mystères de l'univers. Il est dans nos studios de Québec. Frédéric Pelletier, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, oui, c'est ça. Il y a un entomologiste américain, donc un spécialiste des insectes, là, qui a regardé des photos qui ont été prises sur Mars par le rover, comme on dit, là, Curiosité. Et lui, il est sûr qu'il voit des fossiles d'insectes. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce qu'il y a une base à tout ça?
Écoutez, moi, je n'ai pas le choix de dire que je trouve ça un peu farfelu comme histoire. Mm. Je suis ingénieur, mais aussi scientifique, si on veut. C'est tout à fait légitime que quelqu'un émette une théorie comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais de là à y croire, je pense qu'on est loin de ça. Les images qu'il nous a montrées avec son analyse sont peu convaincantes. Je pense qu'on a besoin de faire plus d'essais, plus de tests.
Mais ce qui est surprenant, c'est que l'opinion de ce professeur-là, William Rohmoser, a été relayé par l'Association américaine pour l'avancement des sciences, alors qu'il n'a publié nulle part de façon scientifique. C'est juste son opinion. Pourquoi vous pensez que son opinion a été relayée comme ça?
Ben, c'est assez commun que les nouvelles se promènent de bord et de l'autre. C'est vrai que c'est quelqu'un de respectable. Ça a été relayé par des entités qui sont respectables, elles aussi. Donc, ça demande un certain respect, mais je pense que des nouvelles comme ça, ils ont été repris aussi par Fox News, par exemple. Alors, je pense je voulais savoir votre propre opinion sur Fox News, mais c'est pas quelque chose que j'accorde nécessairement beaucoup de crédibilité personnellement.
OK. À propos de la vie sur Mars, là, puis on va revenir à votre travail à la NASA, là, ça va situer un peu les gens, là, Frédéric Pelletier. Dites-moi, à propos de la vie sur Mars, qu'est-ce qu'on sait à propos de ce qui est vrai, de la spéculation et ce qui est complètement faux?
Côté spéculation, il y en a eu depuis des années. C'est drôle parce que cette histoire-là me fait penser à... dans les débuts des années 1900, il y a eu deux astronomes très crédibles, un Italien et un Américain. Je ne me souviens plus du nom de l'Italien, mais l'Américain, c'était Percival Lovell, c'était les premiers à observer Mars, puis il avait observé ce qu'ils ont appelé des canals, des canaux, si on veut, sur Mars. Puis il avait convaincu la population mondiale que ça prenait une vie intelligente pour pouvoir créer des canaux comme ça sur une planète lointaine. Donc, ça l'a alimenté, je pense. Ça l'a spéculé sur les martiens, les bonhommes verts pendant une trentaine d'années jusqu'à ce qu'on ait finalement des télescopes assez puissants pour les voir. Puis même là, je pense que ça a pris peut-être un autre 30 ans avant que la NASA puisse envoyer des sondes sur Mars puis vraiment tuer ces spéculations-là. Alors, c'est un peu dans la situation où je trouve que la comparaison est bonne. Fait que c'est correct d'émettre des théories, puis ces astronomes-là étaient des gens respectables, mais ça prend plusieurs observations avant de déclarer ça une nouvelle.
OK, vous avez travaillé... OK, je vais vous situer un peu, là, Frédéric Pelletier. Là. Vous êtes ingénieur en aérospatial, et là, c'est pas banal. Bon, vous avez travaillé pour l'Agence spatiale canadienne, bravo, mais vous avez aussi travaillé pour la NASA, et vous avez piloté à distance des sondes qui ont été envoyées à l'autre bout de l'univers.
Oui, j'ai fait 15 ans à la NASA. D'ailleurs, j'ai travaillé sur Curiosity.
OK.
Je l'ai amené à bon port.
Curiosity, là, qui est le rover... Ouais. Qui est sur Mars, là.
C'est ça. Alors, chez moi, ma job, c'était d'un navigateur interplanétaire. Alors, je suis un pilote, en quelque sorte, si vous voulez. Je suis en charge d'amener le vaisseau à bon port. Fait que j'ai travaillé sur la mission Cassini qui est allée sur Saturne, puis tout dernièrement, New Horizon qui est allée à Pluton et un autre corps du système solaire qui s'appelle Ultima Thule.
OK, on va reculer juste un peu de quelques secondes. Vous, là, votre ligne dans votre CV, c'est navigateur interplanétaire, c'est ça?
Ouais, c'est cool, hein?
M'entendez-vous chercher mes mots? Comment le monde réagit quand vous dites ça? Moi, j'ai été navigateur interplanétaire pour la NASA. Est-ce qu'on vous croit?
Les gens ont envie de me parler, souvent. C'est ça la réaction, je pense que vous l'avez aussi.
Oui. Quand j'ai su que vous étiez navigateur interplanétaire, disons que ça me tentait de vous parler. Mais quand vous dites, Frédéric Pelletier, que votre job, c'était d'amener Curiosity à bon port, c'est comme vous, là, vous aviez la manette là, aux États-Unis, puis quoi, votre job, c'était de le faire se poser sur Mars?
Il y a comme une interface qui se fait entre les gens qui l'amènent au travers de l'atmosphère terrestre, pas terrestre, mais martienne dans ce cas-là, jusqu'au sol. Moi, c'était plus de l'amener à l'interface, si vous voulez, là, proche de la planète. Et je sais pas, il n'y a pas un joystick dans mes mains où ce que je navigue comme ça. C'est des calculs d'orbite. Alors, on va tracker ces sondes-là à l'aide d'antennes qui sont au sol, sur la Terre. Et aussi, on s'aide de caméras à bord. Ce qu'on a beaucoup fait avec New Horizon, parce qu'on avait besoin de savoir où est-ce qu'on s'en allait. C'est un problème de triangulation. Il faut savoir où est-ce qu'on est par rapport à la Terre, puis au Soleil, puis aussi où est-ce qu'on s'en va. Donc, il faut déterminer où est-ce qu'on est, puis où est-ce que notre cible est. Alors, on prend des photos, on prend des données de radiométriques, puis on fait du calcul de trajectoire avec ça, puis c'est comme ça qu'on peut, en cours de route, on va se corriger. On va déclarer, on est à côté un petit peu, alors on va faire une manœuvre. Alors, on a des fusées à bord qu'on va calculer un changement de vitesse, si vous voulez, là, qui se traduit en propulsion de la fusée à bord. Puis qu'on va donner aux ingénieurs. Il y a d'autres ingénieurs qui vont travailler à faire des commandes qui sont envoyées à bord de la sonde, puis la sonde va l'exécuter elle-même.
Oui, elle-même, mais avec votre concours quand même. Là.
Ouais. C'est ça.
Mais écoutez, quand vous étiez petit, rêviez-vous d'aller sur d'autres planètes ou c'était pas pantoute dans les cartes?
Oui, oui, j'ai toujours rêvé d'exploration, que ce soit terrestre ou le système solaire m'a toujours fait triper. Je voulais d'ailleurs être astronaute. J'ai pas fait ça, mais je suis pas plus triste pour autant. J'adore ma job.
Et aujourd'hui, là, vous ne travaillez plus pour la NASA, vous travaillez pour une entreprise montréalaise qui s'appelle Northstar. Frédéric Pelletier, dites-nous, qu'est-ce que ça fait Northstar, l'étoile polaire?
Northstar, c'est un projet qui veut s'occuper de la gestion du trafic dans l'espace.
OK.
Alors, on peut faire le parallèle assez facile avec l'espace aérien. C'est une industrie qui existe, qui est très connue, qui est très bien rodée avec des règlements, etc. Présentement, dans l'espace, c'est la cacophonie. Il n'y a pas beaucoup de règlements. Chaque pays fait un peu ce qu'il veut. C'est un problème qui est grandissant parce que de plus en plus, l'espace devient accessible. Ça coûte quand même cher d'envoyer une fusée, mais on miniaturise nos instruments. Des lanceurs se privatisent. On pense à Elon Musk, à SpaceX. Alors ça, puis même lui, il veut en lancer plusieurs pour faire un réseau d'Internet. On parle de milliers de satellites. Ça donne que l'espace est pollué. Les collisions sont possibles. Du côté militaire, les gens s'inquiètent de ce que l'adversaire peut faire. Du côté commercial, c'est « Hey, on va-tu rentrer dans quelque chose puis perdre notre investissement de milliards de dollars qui sert à faire du GPS, des communications ou de la météo? » Fait qu'il n'y a personne présentement qui s'occupe vraiment de sa gestion du trafic aérien. Il y a beaucoup de monde qui y pense. On fait partie chez Northstar d'une coalition internationale, si vous voulez, qui est en train de mettre ça en place. Puis nous, chez Northstar, pour pouvoir faire la job comme il faut, ça nous prend des données. Fait que ce qu'on veut faire, c'est mettre en orbite une constellation d'une cinquantaine de satellites qui va faire l'observation de la Terre, parce qu'on a un autre business d'affaires qui va faire l'observation de la Terre pour d'autres marchés, mais aussi de l'espace.
Écoutez, c'est très intéressant, mais il me semble que c'est moins le fun que de faire se poser des sondes sur Mars.
Je comprends pourquoi vous dites ça, mais je dirais que le challenge technologique est là, parce que pour Mars ou pour Pluton, on a un vaisseau spatial avec un objet, une cible. Là, il faut que je transpose ce problème-là à peut-être 500 000 objets que je vais traquer. C'est un gros problème de... Puis à Montréal, c'est génial de faire ça parce qu'il y a une grappe technologique qui inclut l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'aller faire du big data comme ça.
Okay.
C'est vraiment excitant.
Répétez-moi la ligne dans votre CV, navigateur quoi?
Interplanétaire.
Navigateur interplanétaire. OK, ça, si quelqu'un est capable de battre ça là, comme en termes de partie de CV, je suis très intéressé à vous entendre. Merci beaucoup, Frédéric Pelletier.
Ça fait plaisir.
Frédéric Pelletier est ingénieur en aérospatial. La conversation a commencé sur cette idée un peu loufoque là, qui a été émise par un professeur américain, selon laquelle il y a peut-être eu des insectes sur la planète Mars. Et puis, vous l'avez vu, là, ça, vous l'avez entendu, ça a dévié sur ce que fait Frédéric Pelletier dans la vie. C'est pas banal. Navigateur, a été navigateur interplanétaire pour la NASA. Je m'excuse, je le dis, je le répète, navigateur interplanétaire pour la NASA. C'est une pas pire ligne dans un CV. Et aujourd'hui, là, il travaille à faire un peu la cartographie de ce qui flotte autour de la Terre en apesanteur, les déchets et les autres satellites, des trucs comme ça. Donc, fascinant, 16h, presque 22, au retour, notre duo sportif Martin McGuire et Philippe Quentin.